Donc, on va commencer par le premier sujet, qui est celui de l'administration électronique et l'usage du logiciel libre par les administrations. Tout à l'heure, Marie Duponchel disait que ça se développait de plus en plus, la place du logiciel libre dans l'administration, qu'il y avait des décisions récentes de justice, notamment sur les marchés publics en faveur du logiciel libre, mais que d'un autre côté, il y a aussi des marchés publics qui, de plus en plus, continuent à demander explicitement des logiciels propriétaires, des marques excluant de facto le logiciel libre. Il y a aussi la question, évidemment, de savoir les logiciels développés par l'administration doivent-ils être diffusés en logiciel libre ? Sous quelle licence ? La question des formats ouverts. Donc voilà, un certain nombre de sujets sur cette première... Et puis, quels acteurs aussi pour porter cette administration électronique, à la fois au niveau local, collectivité, mais peut-être aussi au niveau national. On sait qu'on a un ministre en charge, notamment de l'économie numérique. Est-ce qu'il faut un ministre à part entière sur le numérique ? Est-ce qu'il faut que ce soit transversal ? Donc voilà, l'administration électronique, usage du logiciel libre. Alors, qui veut commencer ? Qui se sent d'attaquer cette question ? Soyons galants. Je crois que Benjamin Lancard, lors de la dernier débat que vous avez eu avec Sophie Duvauchel, il y avait eu des petits éclats, mais voilà. On va passer par Sophie Duvauchel, du Front de Gauche.
Bonsoir. Donc, en ce qui concerne l'administration, effectivement, c'est un très gros morceau pour le logiciel libre, puisque aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en termes de logiciel libre dans l'administration et que c'est véritablement dommage pour un certain nombre de raisons. Premièrement, je pense qu'il est absolument primordial que l'État, les collectivités, les administrations, les services publics utilisent des logiciels libres et même uniquement des logiciels libres, et ce pour un certain nombre de raisons. La première raison qui est évidente et qui n'est pas la plus importante, mais tout de même, c'est que d'abord les licences pour les logiciels déjà développés sont gratuites, mais si je dis que ce n'est pas important, c'est que tout d'abord, pour moi, les arguments philosophiques pour lesquels l'État doit promouvoir les logiciels libres sont beaucoup plus importants, et par ailleurs, les logiciels dont tous ces acteurs publics ont besoin ne sont pas forcément déjà existants, et même pour la majorité, ils n'existent pas. Je prends le cas de l'éducation nationale, puisque moi j'enseigne dans un lycée. Je vois bien que les logiciels dont on a besoin pour que le proviseur adjoint fasse les emplois du temps ou qu'on rentre les notes et les appréciations pour les bulletins des élèves ne sont pas des logiciels libres, qu'il n'en existe pas de libres sur le marché. Donc, il faudrait bien évidemment, si on décidait que ces choses-là devraient être libres, commander des logiciels pratiquement à partir de zéro. Comment y arriver ? Nous pensons qu'il faudrait des informaticiens fonctionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a, mais très peu, et qui ont très peu de missions de développement logiciel. Or, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. C'est en plus quelque chose où la France a la possibilité également de capitaliser sur son enseignement de l'informatique, qui, en tout cas dans le supérieur, est performant. Pour terminer sur quels acteurs il faudrait pour mettre en place ces choses-là, nous avons, je crois comme tout le monde, toutes les peines du monde à répondre à cette question pour l'instant, parce qu'effectivement le numérique est une question très transversale. En ce qui concerne par contre ce point très particulier, et là s'il s'agit de rentrer dans les détails, je vais donner mon opinion personnelle, puisqu'on n'a pas forcément discuté en commun de choses aussi précises que ça, je pense qu'il faudrait un service interministériel national de développement, et y compris d'écriture des cahiers des charges, qui soit à la fois interministériel, interadministration, et qui soit également à la disposition des collectivités et des entreprises publiques, puisqu'il y a énormément de choses à faire.
Merci Sophie pour cette précision et d'avoir tenu les délais. Est-ce que quelqu'un veut réagir déjà donc sur cette proposition, en tout cas ce positionnement d'avoir que des logiciels libres dans l'administration, dans la commande publique ?
Pardon, j'ai juste oublié un truc. Il faut également l'e-administration, tout ce qui concerne les services qui sont disponibles sur Internet pour les citoyens, qu'il est parfaitement inadmissible que sous certains systèmes ça ne fonctionne pas. Par exemple, le système des élections professionnelles dans l'éducation nationale qui ne fonctionnait pas sous Linux, c'est contraire au référentiel général d'interopérabilité. et même à toutes les notions d'accessibilité, même si l'accessibilité, on considère que c'est pour les personnes handicapées, mais il se trouve que dans le texte, ce n'est pas spécifiquement écrit. Et ça devrait fonctionner sous Linux, c'est parfaitement inadmissible.
Alors, ça devrait fonctionner sur tout système libre, donc nos Linux. Et effectivement, l'accessibilité concerne aussi les personnes qui ne sont effectivement pas handicapées, ça facilite quand même l'accès à l'information. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette partie-là ? Peut-être Fleur, peut-être sinon ?
Oui, donc moi je partage aussi l'avis selon lequel il faut absolument développer l'usage et le recours aux logiciels libres dans l'administration pour des raisons qui ne sont pas uniquement philosophiques, pour des raisons qui sont des raisons de maîtrise de la dépense publique, parce qu'un certain nombre d'études ont été faites qui montrent que l'administration peut optimiser ses coûts en ayant recours à des solutions libres, interopérables et avec des standards ouverts. Maintenant, il y a une réalité qui s'appelle le code des marchés publics. Vous faisiez référence à des récentes jurisprudences. On a une du 30 septembre 2011, je crois, du Conseil d'État, qui dit effectivement, qui fait bien la distinction entre les marchés de fourniture et les marchés de services. Effectivement, pour les marchés de services, on peut recourir assez facilement à des solutions s'appuyant sur un développement à partir de logiciels libres. En revanche, pour des marchés de fourniture, c'est plus compliqué d'exclure des acteurs d'un appel d'offres. Et si on fait un appel d'offres qui ne vise que des solutions libres, ça peut exclure un certain nombre d'acteurs de ces marchés. Donc je suis plutôt favorable, au moins dans un premier temps, à ce que l'administration mette en avant la notion de standard ouvert, qui pour le coup n'est pas excluante, parce que Microsoft peut très bien concourir en ouvrant ses codes sources, en donnant ses codes sources, mais ça permet au moins à réglementation constante d'être conforme au droit. Alors, pour tout ce qui concerne l'e-administration, je pense que à l'heure où à l'heure de l'open data, il est absolument nécessaire d'avoir des formats ouverts. À la fin, on va parler d'innovation tout à l'heure, mais pour créer justement des gisements d'innovation et permettre à des entreprises qui travaillent à partir de données publiques de réutiliser dans le cadre de leur activité ces formats. Donc, moi, je me félicite de la démarche, même quoique un peu tardive, d'ouverture des données publiques, mais je regrette qu'elle ne se fasse pas sous des formats qui soient tous des standards ouverts. Donc je pense qu'il y a du progrès, il y a de la marge en la matière et qu'il faudra absolument développer cet effort. Et pour tout ce qui concerne l'éducation, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a de grandes marges de progrès en matière d'ouverture des standards pour tout ce qui concerne l'innovation pédagogique, notamment pour permettre aux enseignants de créer des référentiels pédagogiques ou de l'innovation pédagogique via des formats ouverts, un peu à l'image de ce qui a été fait au Brésil où l'État met à la disposition des collectivités publiques un portail de logiciels libres pour des fonctions de base de l'administration, des systèmes d'information, et où les collectivités publiques, avant de passer un marché, doivent regarder s'il n'y a pas un logiciel qui correspond à leurs besoins, qu'elles peuvent développer pour avoir des solutions techniques. Donc je pense aussi que c'est intéressant d'avoir effectivement des développeurs au sein de la fonction publique qui puissent avoir une approche métier dans les ministères pour développer des solutions à partir de solutions libres.
Merci. Je crois... Jean-Baptiste ?
Non, je voulais simplement apporter une nuance par rapport à l'utilisation des logiciels d'administration. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des logiciels utilisés par l'administration sont ce qu'on appelle des applications métiers. C'est-à-dire que certes, installer OpenOffice, installer Linux sur ordinateur, l'administration, c'est une chose qui est faisable et qui est déjà largement faite. Mais beaucoup, vous parliez du logiciel de notes pour l'éducation nationale, beaucoup de ces logiciels, que ce soit dans la gendarmerie, dans le trésor public, etc., beaucoup de ces logiciels sont des logiciels métiers qui sont spécifiquement développés pour les usages de ces administrations. Et là, effectivement, il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont basés sur des technologies qui sont souvent dépassées. Les utilisateurs, je pense, pourront le dire. Mais je ne pense pas qu'en même temps que la réponse soit de dire qu'on va nationaliser, en quelque sorte, le développement de ces logiciels. C'est-à-dire que, pour moi, la réponse, c'est bien de baser ces logiciels sur des technologies libres, donc qui permettent de bénéficier de l'écosystème du monde libre. Mais ils doivent, bien sûr, s'inscrire dans un cadre qui permette... l'évolution de ces logiciels. Quand un logiciel est pour seul client l'éducation nationale, il est très difficile. Il y a une espèce de lourdeur, un monopole, entre quelque sorte, qui s'établit, et le logiciel évolue mal. Donc là, sur la réponse, pour le coup, certains s'entendront, mais je pense qu'il y a quand même pouvoir partager les choses entre les États, entre les administrations, sur le développement de ce genre d'outils, ça pourrait être aussi une bonne chose. Voilà. Et le second point, c'est sur l'open data, où effectivement, je suis parfaitement en phase avec Fleur Pellerin. Je pense que c'est un outil pour la démocratie qui est essentiel, la démocratie locale et la démocratie aussi au niveau de l'État. Et effectivement, je reconnais l'effort qui a été fait par le gouvernement de Fillon pour mettre en ligne ces données, notamment le budget de l'État, même s'il y a un problème de lisibilité qui rend ces données difficilement compréhensibles pour le commun des mortels. Mais reste que l'open data pour les administrations locales, pour la vie locale, la vie municipale, etc., et même la vie au niveau national et le débat public sont des choses qui sont parfaitement essentielles. Et aujourd'hui, c'est rendu possible et on doit aller le plus loin possible dans ce domaine-là. Voilà.
Avant de passer la parole à Benjamin Lacarre, sur ces questions-là, je rappellerai comme les expériences, notamment, enfin pas les expériences, l'association Adulacte, qui regroupe des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales, donc ils mutualisent des développements métiers, justement, c'est une des réponses apportées. Je pense aussi à l'ENT Lili, qui a été développé originellement par la région Île-de-France et qui est réutilisé dans d'autres régions. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, excusez-moi, on va essayer de ne pas tutoyer, mais vous ne pouvez ne pas être d'accord, Sophie. Ah, l'outil, oui, non, mais ça, oui. Alors, la remise en cause de l'ENT, ça c'est autre chose. Je parlais de la démarche. Voilà, c'est le résultat. Mais en tout cas, de la démarche de mutualisation hors nationalisation qui existe déjà et qui mérite sans doute d'être encouragée. Je tenais juste à le préciser. Donc, Benjamin Lancard.
Non, alors, donc la position de l'UMP sur le sujet, c'est que c'est clairement pas à l'argent public de financer à gogo des grandes entreprises, notamment des multinationales américaines. Donc, clairement, on est bien sûr favorable au développement du logiciel libre. Et je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience tout au long de ces dernières années, avec notamment voilà, des gestes symboliques. Mais effectivement, il y a 10 millions, je crois, chaque année de recherche et développement qui est investi par l'État dans le logiciel libre. Il y a effectivement des administrations très symboliques qui sont passées au logiciel libre. Dans toutes les administrations, notamment, je crois qu'on impose Firefox, on impose VLC. Il y a aussi l'Assemblée nationale qui est passée en logiciel libre. Donc, c'est quand même des éléments notable. Non mais je bosse pas à l'Assemblée nationale, donc je peux pas témoigner de.
Je vous laisse
que
continuer.
Vous y connaissez bien plus que moi.
Je précisais juste que c'était sur le poste client et c'était pas sur la partie système d'information. Mais les députés utilisent effectivement du logiciel libre depuis 2008, je crois, ou 2009. Ouais,
bon, ça c'est quand même positif. Voilà, donc il y a eu des avancées importantes. Idem, bien sûr, l'open data c'est une grande satisfaction. Et moi je pense que c'est bien que gauche comme droite on salue cette avancée parce qu'elle est utile et il faudra bien sûr la poursuivre. Il faut évidemment que il y a eu la volonté d'aller rapidement pour pouvoir mettre en ligne le site. Et donc peut-être qu'il faudra encore plus faire en sorte que ça soit tout en logiciel libre parce que je sais qu'il y a certaines données qui sont d'abord pas en logiciel libre et puis elles sont bien sûr compatibles en format. Mais donc là c'est sûr que c'est un sujet. Et puis l'autre chose c'est le rapport de Franck Riester sur le sujet de l'e-administration, qui était un rapport important parce qu'il a permis de faire avancer des choses. Nathalie Kosciusko-Morizet avait beaucoup travaillé dessus quand elle était au secrétaire d'État au numérique. Donc là, je pense qu'on peut continuer à avancer. Juste une remarque, parce que j'ai entendu Fleur dire il faut que les collectivités fassent de l'open data sur le logiciel libre. Moi, je veux bien. Je n'ai pas du tout envie d'être polémique ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais je crois qu'Arnaud Montebourg a fait de l'open data. Je crois qu'Arnaud Montebourg a fait de l'open data en Saône-et-Loire, à son niveau, au niveau départemental, et il a utilisé pas du tout du logiciel libre, puisqu'il est même passé par un prestataire qui s'appelle Capitaine Dash, et donc au final, c'était pas du logiciel libre, et donc voilà, je pense que voilà, on a le droit aussi de regarder d'abord dans son propre camp, avant après d'essayer de donner des leçons.
Alors, je vais me permettre d'intervenir là, parce qu'effectivement, avant de laisser la parole à Frédéric Nau sur cette question-là, d'abord pour dire que ça va être un sujet, une thématique sur l'open data, parce que je pense que nos amis de Regards Citoyens qui sont dans la salle déjà vont hurler, vont vouloir intervenir, et je les encourage à organiser une thématique, un débat sur l'open data ici même, parce que l'open data, ça concerne, effectivement, sur les formats, ça concerne un petit peu le logiciel libre, mais pas directement. Donc voilà, Benjamin de Regards Citoyens nous a dit qu'ils feront effectivement un débat sur l'open data. Et je voulais juste, avant de passer la parole donc à Frédéric Nau, rappeler que quand vous parliez des formats ouverts, que François Fillon a annoncé récemment Ah, c'est ce dont tu voulais parler ? Alors je laisse la parole à Frédéric Nau.
Non, je vais essayer de répondre sur plusieurs points. Chez les écolos, on est quand même assez à l'aise avec les thématiques des logiciels libres et du non-brevetage, etc. Parce que ça recoupe aussi beaucoup des thématiques qu'on a sur le brevetage du vivant. Voilà. Ce qui fait que je crois que les Verts ont été dans les premiers partis politiques à s'intéresser à ces questions et soutiennent systématiquement, que ce soit au Parlement européen ou au Parlement français, surtout quand on aura plein de députés bientôt, et au Sénat, maintenant qu'on a pas mal de sénateurs, toutes les initiatives, tous ces combats-là. Sur la question de l'administration, enfin du libre dans les administrations et les collectivités locales. Je crois qu'on a été le premier parti politique à demander ça, c'était en début 2006. Maintenant, alors sur l'open data, moi je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant. c'est mine de rien, pour le coup, c'était une bonne initiative, même si, effectivement, ça fait longtemps qu'on l'attendait, qu'il y ait ça. Je pense que maintenant que le débat est posé, qu'une licence a été proposée pour les données, ça serait intéressant de remonter au niveau de la production des données. Donc il y a des exemples, par exemple, ce qui se fait Géo Orchestra, qui est décliné en Bretagne sur Géo Bretagne avec OpenStreetMap, où il y a plusieurs administrations qui peuvent enrichir une même base de données géographiques, de cartographie, sur un outil libre. Donc je pense qu'il y a moyen, en partant de cet appétit qui a été donné sur l'ouverture, de remonter vers les applications et vers les pratiques dans les collectivités. Après, sur le débat aujourd'hui, quand même, c'est qu'on part quand même de très très loin. Ça fait très longtemps qu'on demande ça, que tout le monde a compris les intérêts financiers, de ne pas se retrouver bloqué dans des formats propriétaires, de ne pas se retrouver avec des données qu'on ne peut plus utiliser quand le fournisseur de logiciels fait faillite. Donc tout le monde a bien compris les enjeux, n'empêche que ça n'arrive presque pas. Le libre dans les administrations, on n'y est pas. Donc il faut quand même qu'il y ait une vraie volonté publique qui passe et par la loi, donc ce que tu allais dire, je pense, sur le référentiel, que finalement au dernier moment, François Fillon a autorisé qu'à côté des licences, des formats...
Je n'allais pas parler de ça tout de suite. Mais effectivement, je comptais poser une question sur l'RGI après. Bon, je te laisse finir.
Ah, d'accord.
Mais vas-y.
Et bah que voilà, que dans la RGI, c'était la première nickel.
RGI, c'est référentiel général d'interopérabilité.
Pardon, mais je crois que tu l'as dit. Et qu'au dernier moment, le format de Microsoft, c'est OXML, je crois, a été accepté à côté du format Open Document. Ce qui fout en l'air complètement le principe, vu qu'il n'y a plus d'obligation d'interopérabilité de fait. On ne peut pas dire que parce que Microsoft est partout, c'est interopérable. Donc ça, c'était un premier sujet. Juste, je voulais revenir sur les commandes publiques. C'est pareil, alors je sais pas, c'est peut-être un problème, une question de formulation, mais j'avais l'impression que tu disais il faut faire attention dans les marchés publics à ce que Microsoft se retrouve pas exclu des commandes publiques parce qu'on aurait voulu que du libre dans la commande. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, il est l'inverse. C'est comment faire pour que les commandes publiques aujourd'hui permettent le libre et ne soient pas dans la définition du marché qui est posé sur la table, qu'il n'y ait pas des contraintes qui font qu'on soit obligé de répondre avec une solution propriétaire.
Alors je vais laisser éventuellement les personnes réagir, mais comme tu parlais du référentiel général d'interopérabilité, en fait je voulais parler effectivement de François Fillon, mais pas exactement de ça. Mais je vais quand même en parler, parce que ça va être l'occasion de poser une question un peu technique, mais que vous aurez sans doute dans le questionnaire. Donc François Fillon a annoncé il y a récemment qu'il demandait la généralisation des forums à ouvert dans l'administration. Ça fait quand même plusieurs mois. Il y a une députée qui vient de poser une question écrite pour savoir concrètement comment ça va se mettre en place. Donc on espère qu'on va avoir des réponses. Mais effectivement, tu faisais référence au référentiel général d'interopérabilité donc qui indique un certain nombre de préconisations par rapport à des formats de documents, notamment. Et effectivement, la première version de ce référentiel demandait aux administrations d'utiliser le format de Open Document, de format normalisé. Ensuite, il y a eu un lobbying, et on peut le dire très clairement, parce que c'est reconnu par tout le monde, de Microsoft pour acheter sa normalisation auprès de l'ISO. En France, ça a été même à un point terrible, c'est que la commission qui participait à cette étude, dont je faisais partie, s'est majoritairement opposée à cette normalisation et que malgré tout, le gouvernement a donné son accord. Donc ça, c'est un fait. Donc si j'ai bien compris, certains acteurs ici vont remettre en cause le RGI dès qu'ils seront élus. Et est-ce que les autres vont maintenir ce référentiel qui, en gros, dit aux administrations, continuez à utiliser Microsoft ?
Je vais juste répondre sur les marchés publics. Ce n'était pas du tout un jugement qualitatif. C'est un constat juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à un marché public qui exclut de facto un des acteurs, que ce soit libre ou propriétaire, d'un marché public. Et là, la jurisprudence, justement, c'était sur l'IDI, la jurisprudence récente du Conseil d'État dont on parlait, qui a confirmé que pour des marchés de services, c'est-à-dire est-ce qu'on peut demander, c'était la région Picardie en l'espèce, est-ce qu'on peut demander d'utiliser un format libre, l'IDI, et de demander un prestataire de développer des spécificités qui permettent d'adapter l'ILI à la situation picarde, le Conseil d'État a répondu que oui, on le peut dans le cadre d'un marché de services, mais pas dans le cadre d'un marché de fourniture. Donc il y a une distinction qui est faite, et c'est juste un constat. À code des marchés publics constant, on ne peut pas exclure un acteur du marché, que ce soit un acteur du libre ou un acteur du propriétaire. Alors sur le RGI, moi, je suis tout entièrement d'accord. Je trouve que le fait qu'il y ait dans le RGI un format OXML, qu'il soit complètement une coquille vide, en fait, qui n'est pas défini, rend l'utilisation de ce RGI assez compliqué. Donc je pense qu'il faut sortir, enfin il faut avoir un format vraiment libre. Effectivement, l'introduction du format OXML est le résultat d'un lobbying auprès des collectivités locales et du gouvernement, et ne correspond pas à un vrai standard ouvert.
Alors, je vais laisser réagir Benjamin Lancard. Je voudrais juste préciser avant sur la partie marché public. Tu voulais préciser ? Bon, de toute façon, on allait dire la même chose, donc je te laisse la dire. Donc Jeanne Tadeuse, ma collègue en charge des affaires publiques.
Non, ça marche. Si l'allumé, ça marche mieux quand même. Non, mais juste pour préciser sur les marchés publics, effectivement, le Conseil d'État a précisé la distinction entre marché de fourniture et marché de service, mais il a aussi rappelé que dans le cadre d'un logiciel libre, il n'y a pas de marché de fourniture, puisqu'il n'y a pas d'acte d'achat, puisque à partir du moment, enfin, pour les logiciels qui sont librement déjà disponibles, par exemple sur Internet, le Conseil d'État a considéré, en tout cas dans le cas de Lily, finalement, il n'y a pas besoin de faire un achat pour se procurer le logiciel, il y avait uniquement un marché de service.
Dans ce cas-là, oui, mais on peut très bien imaginer qu'une administration commande un logiciel libre et qu'une société développe un logiciel libre pour répondre à une certaine demande. Et dans ce cas-là, ça serait un marché de prestations, enfin de fourniture.
Oui, mais non, ce serait quand même qu'un marché de prestations, puisque l'administration, elle ne commande pas le logiciel, elle commande la prestation d'écriture d'un logiciel. Ah non, mais... Et si dans l'appel d'offres, il y a marqué que la licence du produit fini doit être la GPL, ça, c'est une condition que le Conseil d'État aura du mal à retoquer, je pense. Hein.
Alors, ceci, avant vraiment de passer la parole à Benjamin Lancard, je rappelle quand même que sur le Code des marchés publics, ce qui est une demande déjà, c'est qu'en fait, on demande des fonctionnalités de logiciels et non pas des noms de logiciels. Là, ça exclut personne. C'est-à-dire ça exclut ni le logiciel libre, ni le logiciel propriétaire. Ça permet à n'importe qui de répondre. Et ça, c'est déjà dans le Code des marchés publics. Simplement, il n'est pas pour l'instant respecté par la plupart des collectivités, par manque souvent d'informations, par habitude. Donc voilà, c'est une demande relativement simple, simplement qui demande de l'information auprès des collectivités. C'est un travail que mène notamment Jeanne et d'autres acteurs. Voilà. Et donc, je laisse Benjamin Lancard réagir.
Non, mais moi je serai pas dans le détail à dire est-ce qu'on va réformer tout de suite le RGI ou pas, mais ce qui est certain, c'est que moi, je pense beaucoup que le président de la République, élu ou réélu en 2012, devrait vraiment dire, voilà, dans 5 ans...
Réélu, c'est-à-dire qu'il est candidat ?
Je pense que vous avez compris que c'est un souhait ardent. C'est pas un grand scoop. Hein. Mais enfin, en tout cas, c'est un...
Non, non, mais... C'est enregistré, non, mais... parce que normalement, c'est dimanche.
Scoop,
d'accord.
C'est pas un scoop. C'est un souhait ardent. C'est un souhait ardent de ma part. Mais... Mais je vois que sa stratégie, en tout cas, fonctionne si ça provoque autant d'émoi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que voilà, moi, je crois beaucoup au fait que la personne qui dirige le pays à partir de 2012 soit et le gouvernement ait vraiment une logique de dire il faut que d'ici à 2017, on arrive à avoir la plupart de un pourcentage assez élevé d'administrations qui utilisent le logiciel libre. Et c'est pas que ça, c'est que globalement, ça soit un quinquennat vraiment de l'économie numérique et que on en fasse vraiment l'un des piliers principaux de croissance, et donc je pense que le logiciel libre fera partie de cette vision-là. Donc c'est pour ça que je ne peux pas rentrer en détail sur le RGI, mais par contre, je pense que ça s'inscrit pleinement dans un discours, et en tout cas dans la vision qui est celle du projet de l'UMP.
Il n'y a pas de problème de ne pas rentrer dans le détail, il n'y a aucun souci. Avant juste de passer au sujet précédent, au sujet suivant, vous parlez d'un quinquennat de l'économie numérique. J'espère que ce sera un quinquennat de la société numérique. Parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a vu le numérique que d'un point de vue économique. Alors, c'est pas forcément le seul, hein, d'ailleurs, hein, mais nous espérons qu'il va englober la stratégie globale du numérique en tant que société numérique. Donc, on va changer de sujet. Est-ce qu'il y a une question dans la salle sur cet aspect-là ? Mais pas sur l'open data, s'il vous plaît. Vous aurez la cantine pour vous, tout seul. Parce que là, je les vois trépigner. Bon, alors, on va passer à la suite. On va changer de sujet. J'ai pas vu. Ah ben, oui, mais... Ah ben... Alors, il faut un micro. Frédéric, il faut un micro.
Bonjour, Frédéric. Sur le RGI, ça veut dire qu'il peut embarquer, entre guillemets, plusieurs types de formats, en l'occurrence de standards ou de normes qui sont passés à l'ISO, ou ça veut dire que ce texte, ce corpus de texte, que ce soit RGA, RGS, RGI, ou celui qui existe aussi dans la santé, il ne doit, entre guillemets, proposer qu'un seul standard pour que ce soit plus simple et plus compréhensible. Et voilà, ça, c'est une question ouverte. Un ou plusieurs standards pour chaque type de problématiques ou d'usages. Merci.
Alors, l'expert que tu es, vu que tu as participé à ces travaux-là sous une autre casquette, la question s'adresse à qui ? À nous ou aux intervenants ? À l'ensemble ? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre ? Alors, les intervenants laissent la question ouverte. Si Fleur veut répondre.
Je pense que ce n'est pas une question de nombre de standards. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs standards. L'important, c'est que les standards correspondent à quelque chose. Là, en l'espèce, le standard de Microsoft ne correspond à rien. Donc, a été normé par, normalisé, ou je ne sais pas comment on dit, par ISO de manière assez hâtive et complaisante. Quoi. Donc, c'est plus ça le problème que le nombre de standards. Je pense qu'à partir du moment où les standards sont ouverts et interopérables, on peut très bien les accepter.
Bon, je vois de loin que la réponse ne te satisfait pas, mais c'est un sujet ouvert. Oui, enfin, 150 pays, Microsoft avait effectivement beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de monde, on le sait très bien tous les deux, donc ceci dit, c'est un autre sujet. Toute la documentation est en ligne. Donc en gros, tu dis que c'est un combat de lobby et que simplement, il y en a un qui a dépensé plus d'argent que l'autre. Bon,
non,
c'est un sujet. Sophie Duvauchel.
Si, moi, j'ai, sur le fond, un usage, le référentiel général d'opérabilité, il définit des usages. Pour tel type d'usage, il y a tel type de format. Donc ça veut bien dire qu'il n'est pas obligatoire qu'il n'y en ait qu'un seul. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un format ouvert ? C'est un format qui est suffisamment documenté pour que tout développeur puisse l'exploiter. Si le format de Microsoft ou de IBM ou de Google ou de n'importe qui est véritablement ouvert, il n'y a aucune raison qu'il soit exclu. Et il n'y a aucune raison à ce qu'on dise qu'il n'y en a qu'un seul. Effectivement, on dit les marchés publics aujourd'hui peuvent écrire, même si dans la loi ils n'ont pas le droit, mais ça arrive souvent qu'ils écrivent noir sur blanc, nous avons besoin d'un logiciel sous Windows qui s'interface avec Word pour faire ceci et cela. Finalement, si on dit nous voulons obligatoirement un logiciel qui utilise le format ODT, ça n'a pas les mêmes implications, mais c'est le même type d'erreur, quoi. C'est le même type de choses qu'on ne peut pas accepter. Et j'irais presque jusqu'à dire que c'est une problématique de laïcité. Vous allez tous ouvrir des yeux gros comme pas permis. Mais la laïcité, c'est ce qui sépare ce qui est privé de ce qui est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est par exemple, on a besoin d'un tableur. Le privé, c'est je prends le format XLS, je prends le format ODS, je prends le format bidule. La République, elle n'a pas à dire que pour tel type d'usage, vous utilisez tel outil particulier. Chacun est libre. Effectivement, à partir du moment où c'est interopérable et documenté, donc ouvert.
Alors, merci pour cette réponse, Sophie, qui a l'air de satisfaire Frédéric. Bon, oui, très bien, ok, il le satisfait. Je préviens pour ceux qui nous écoutent, qui hochent la tête. Donc on va changer de sujet, mais on ne va pas finalement trop s'éloigner, vu que tu parlais... il est où ? Ah, je ne voyais pas, excusez-moi.
Concernant l'administration, sous Jospin, ça fait un certain temps... Jospin avait mis en place à l'intérieur de l'administration une structure qui s'appelait l'ATICA, qui était transversale aux différents corps administratifs et qui avait pour vocation spécifique de promouvoir le logiciel libre. Est-ce que ce type de structure sera remise en place dans l'administration pour pouvoir le faire, justement compte tenu de la problématique des différents corps dans l'administration et des différents statuts de l'administration et des formations? Ou est-ce qu'on ne reviendra pas là-dessus compte tenu de la disparition de ces structures ?
Alors, qui souhaite répondre rapidement sur ce sujet ? Est-ce que le micro peut revenir ? Benjamin Ricard ?
Non, mais moi, comme ça, c'est peut-être ma culture politique, mais je ne suis pas... Enfin, je suis pas persuadé que c'est parce qu'on crée un organisme ou une entité ou une autorité que...
Une autorité, c'est ça ?
Oui, ou une... que... c'était pour voir si vous suiviez. Mais en tout cas, on est... Voilà, moi, je suis pas persuadé que ce soit forcément ça qui assure la réussite. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Et attention, je pense qu'il faut aussi dire la vérité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une impulsion très forte de l'administration centrale. Mais le principe de libre administration des collectivités territoriales fait que c'est pas le président élu qui pourra dire, ou un gouvernement qui pourra dire, tout le monde doit faire du logiciel libre. Donc il faut... On a bien vu qu'il y a des cas de collectivités de gauche comme de droite qui ne le font pas actuellement. Donc je pense que ce c'est pas simplement juste créer une autorité, mais c'est aussi, ou une entité, c'est aussi vraiment un environnement et des signaux positifs à envoyer à l'ensemble. Et moi, je pense qu'on devrait avoir, par exemple, des congrès de l'AMF, des congrès de l'Assemblée générale, de l'Assemblée des départements, des régions de France, où ça revient davantage que ça ne l'est aujourd'hui.
Alors, juste avant de changer de sujet, pour répondre à ta question, ce qui a pris la suite, mais vaguement, de la TICA, c'est aujourd'hui la DISIC, la Direction interministérielle des informations et de communication. Non, mais je te dis, juridiquement, c'est ce qui a pris la suite, même si c'est effectivement, ça n'a pas repris une bonne partie de ses prérogatives.
Oui. La TICA n'était pas une administration, elle n'était même pas une mission, disons, rattachée auprès des services du Premier ministre. C'était juste, c'était pas une direction. C'était quelque chose qui était au sein.
C'était quand même rattaché au Premier ministre, quand même.
Non, c'était un groupe de travail qui était au sein de l'administration, mais qui n'avait pas d'existence juridique.
Ok. Nous ne sommes pas d'accord, mais ce n'est pas très grave. Chacun a le droit.